un chemin vers ce que l'on est.
À quel moment as-tu décidé de te lancer dans une carrière artistique ?
Il ne s'agit pas d'une décision consciente, mais plutôt d'un parcours intérieur vers ce qui me correspondait. Je ne me suis pas levée un matin en me disant que j'allais faire ce métier. C'est un chemin que j'ai pris à l'instinct, qui s'est dessiné au fil des choix successifs, des rencontres, d'opportunités loupées ou saisies. Ce n'est pas l'ego qui m'a poussée à monter sur scène, mais si je voulais pouvoir assister au spectacle de la vie, il valait mieux que je sois devant. J'ai toujours été volontaire pour être en première ligne. Pierre Palmade, avec qui j'ai travaillé lors d'un spectacle, a joliment résumé ma situation en une phrase. « C'est normal que tu sois sur scène, comme ça, tu peux tout voir de haut. » De toute façon, à un moment, il faut prendre sa vie en main. Personne ne le fera pour toi. Au début, je voulais être institutrice. Déjà le syndrome de la scène avec l'estrade. Pour mes 10 ans, mes parents m'avaient offert un électrophone. Et j'étais folle de Claude François. Gamine, je voulais être chanteuse-comédienne. Je rêvais de devenir un mélange de Sheila et Shirley MacLaine. Un élément est cependant venu préciser la perception de mon futur. Comme tous ceux de ma génération, j'ai vu le film Angélique, marquise des anges, et ses suites. Mais je ne les ai pas regardés avec les mêmes yeux que l'ensemble du public. Rappelle-toi, au milieu de ces grands sentiments et de cet esprit chevaleresque contrarié par le destin, le nain Roberto mourait parce que c'était un des méchants. Pour moi, ces grands films populaires ont surtout marqué une prise de conscience quant à la place que l'on donnait aux « nains » dans l'inconscient collectif. Je ne voulais pas du tout ça. Parce qu'au fond de moi, avec mon optimisme naturel, je me voyais plus en Angélique qu'en nain fourbe et cruel. C'est d'abord par les rôles que l'on faisait jouer aux personnes de petite taille que j'ai découvert la réalité de l'imagerie populaire qui leur était associée. Alors, de toutes mes forces, j'ai voulu être ce que l'on n'attendait pas de gens comme moi. Quitte à être extraordinaire, autant que cela s'écrive en deux mots. J'ai voulu sortir de la vie de tous les jours, me distinguer de la masse et ne pas être celle sur qui on se retourne parce qu'elle est différente, mais parce qu'elle apporte quelque chose aux autres. Je n'ai jamais souhaité engendrer la pitié. Je ne voulais rien m'interdire, je ne voulais pas être réduite à un cliché. Je crois que l'étincelle vis-à-vis de ce métier est née à ce moment-là. Et une rencontre décisive m'a confortée dans cette idée. C'est en 1976 que j'ai fait la première rencontre professionnelle importante de ma vie. Michel Fugain et son Big Bazar étaient à Lyon pour une semaine, en tournée sous un grand chapiteau. Ce qu'il proposait à l'époque avec sa troupe était tout ce que je rêvais de faire un jour sur scène. Du chant, de la danse, de l'humour, de la comédie. Singing in the rain à la française. Il n'y avait aucun doute, le destin me faisait signe dans ma ville natale. Avec mes yeux bleus et mon plus grand sourire, j'ai réussi à me faufiler dans les coulisses. Et je leur ai dit, après avoir respiré un grand coup, que j'étais faite pour ce métier, que j'étais prête à intégrer la troupe et que rien ne pourrait me détourner de mon but. Fugain m'a gentiment écouté, j'ai fait des photos avec lui, il m'a offert d'assister au spectacle autant que je le souhaitais. Et c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Je n'en ai manqué aucun. Et je fondais en larmes au final pendant les saluts, parce que je mourais d'envie d'être sur scène à leur côté. Toute la troupe se souvient de cette petite bonne femme qui pleurait tous les soirs au premier rang. Cela peut paraître prétentieux, mais je m'en sentais capable. Je savais que ma place était parmi eux. Mais Michel m'a renvoyé à ma licence de sciences éco. Je te promets que si un jour c'est possible, je t'aiderai. Mais d'abord, bosse, apprends le métier, et on se reverra. Ce fut quand même le début de quelque chose pour moi, comme une porte qui s'ouvrait. À la fin de la semaine, Michel et sa femme, Stéphanie, m'ont dédicacé le programme en me disant « à bientôt ». Cela m'a aidé à tenir le coup, à me dire qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rêve, que je tenais un tout petit quelque chose de vrai. Michel m'a conseillé d'apprendre la danse ou le chant si je voulais vraiment faire ce métier et de le tenir au courant de mon évolution. Tu parles. Illico presto, je me suis inscrite à un cours de claquettes et au bout de 6 mois, je lui ai annoncé que ça y est, j'étais prête. On se fixe un rendez-vous à Paris, mais lorsque je suis entrée dans son bureau, il n'y avait que de la moquette, mal barrée pour les claquettes. Je lui ai même proposé d'aller dans les toilettes, où on trouverait sans doute un petit bout de carrelage. Mais il m'a arrêté net en me disant que, de toute façon, il détestait les claquettes et que mon niveau devait certainement être très loin de Ginger Rogers et Fred Astaire. Une fois encore, il m'a sagement conseillé de poursuivre mes études, tout en développant en parallèle mon apprentissage artistique. J'étais venue à cette audition avec mon amie d'enfance, Isabelle. Pour faire passer la pilule, on est allé prendre un whisky dans un bistrot à côté, alors que nous n'avions pas du tout l'habitude d'en consommer. J'ai refait le monde ce soir-là. Il fallait que je fasse du spectacle par tous les moyens possibles.
Mais tu as continué tes études.
De toute façon, même si je me voyais déjà en haut de l'affiche, pas question pour mes parents de me laisser tout plaquer pour filer toute seule à la capitale. Surtout que mon unique expérience artistique consistait à avoir chanté dans la chorale paroissiale. Pour ménager leur petit cœur, j'ai accepté de poursuivre mes études, de tenir 2 ans de plus jusqu'à ma licence de sciences éco, mais en trouvant un compromis qui me convenait. Pendant les vacances étudiantes, j'ai commencé à me rapprocher de mon rêve en devenant animatrice et en faisant des spectacles en amateur. Dès mes 18 ans, en 1975, le village vacances VVF de Seignos, les Estagnaux, dans les Landes, m'a embauchée. J'y suis restée 5 étés de suite. Mon rôle consistait aussi bien à accompagner les excursions qu'à animer les jeux apéro et café, à diriger des ateliers macramé, mais surtout à écrire et proposer des spectacles pour distraire les vacanciers pendant les soirées d'été. Des spectacles amateurs, certes, mais quand on se retrouve devant 1000 personnes tous les soirs, on apprend à gérer le trac. Quand j'ai raté ma licence, j'ai su que les sciences éco n'étaient définitivement pas pour moi. Tant pis pour la grande carrière administrative dont rêvaient mes parents. Ça a été un premier choc pour eux, quand je leur ai annoncé que j'arrêtais mes études pour devenir animatrice. Bien sûr, c'était un changement d'orientation radical, vers un parcours beaucoup moins habituel, et ils se sont inquiétés. J'ai essayé de les rassurer, en argumentant que mes études de sciences éco me seraient sans doute utiles, que j'avais toutes les chances de devenir un jour directrice d'un VVF. Et puis, j'avais l'opportunité d'avoir du travail tout de suite grâce à mon chef animateur, Jean-Alain Saturnin. Un nom comme ça, ça ne s'invente pas. Il venait d'accepter un poste au Ménuire pour la saison d'hiver. Il m'a recommandé à la directrice du VVF pour qu'elle m'embauche comme seconde. Il a juste oublié de lui préciser que je mesurais 1m32 et de me dire à moi qu'il ne l'avait pas prévenu. Je n'oublierai jamais la tête que ma future patronne a faite quand je suis entrée dans son bureau. Elle a essayé de ne rien laisser paraître, mais c'était raté. À ses yeux, ma taille constituait un obstacle. Mais elle m'a pourtant laissé ma chance. Nous nous sommes très bien entendus, et par la suite, elle a reconnu qu'elle avait eu une réaction complètement inadaptée. Je suis restée au Ménuire pendant les 6 mois de la saison d'hiver, et c'est en 1979, alors que j'étais en haut des pistes, que Michel Fugain a décidé d'arrêter la scène pour monter son atelier de comédie musicale au studio de la Victorine, à Nice. Je suis retournée le voir et il a tenu sa promesse. Après m'avoir fait passer l'audition comme aux autres, il m'a dit « Ok, je te veux dans mon équipe. » Enfin, presque. Deuxième choc pour mes parents, lorsque je leur ai annoncé que Fugain m'avait accepté et que je partais à Nice. Ils venaient à peine de s'habituer à l'idée que je devienne animatrice et ont eu un peu de mal à digérer ce nouveau changement de cap. Mais ils m'ont suivi, une fois de plus. Dans la foulée, je leur ai précisé que je ne recevrais aucun salaire, que je devrais payer l'école 600 francs par mois et aussi trouver à me loger. Mes parents m'ont soutenu, ils m'ont emmené à Nice et m'ont laissé tenter ma chance en me disant qu'ils m'aideraient financièrement 3 mois, mais qu'après, je devrais me débrouiller.
Comment as-tu fait ?
Pour mettre du beurre dans les épinards et payer ma formation chez Fugain, j'ai réussi à me faire engager l'été suivant au VVF de Menton. Par crainte de l'éventuel ego mal placé d'une apprentie vedette, le directeur m'a d'abord proposé de travailler à la lingerie de 5h du matin à 13h. J'avais besoin de bosser, j'ai dit oui. Sauf que chaque jour, après la lingerie, j'assurais aussi l'animation jusqu'à 2h du matin. J'ai fait mes preuves, et du coup, le week-end, entre mes cours de danse et de comédie, je partais là-bas me faire un peu d'argent de poche. À Nice, j'ai d'abord trouvé un mini-studio chez une mamie qui avait tout cadenassé, jusqu'au téléphone. J'y avais ma chambre et une kitchenette, mais interdiction de circuler dans le reste de l'appartement. Son fils m'avait même bloqué la télé. Je me retrouvais seule dans une ville où je ne connaissais encore personne. Pour me distraire, j'allais parfois au cinéma de la rue d'à côté. Je me souviens du film « Les uns et les autres » de Claude Lelouch, que j'ai vu au moins 4 fois. Heureusement, quelque temps après, j'ai pu quitter ce logement et prendre une colocation avec des copines que j'avais rencontrées à l'atelier. Juste une parenthèse. Je n'étais alors pas connue et, à l'époque, ma différence, ce signe particulier, était précisée sur ma carte d'identité. Une fois, avec une copine qui conduisait, nous avons été arrêtés dans le Vieux-Nice tard le soir. Le policier contrôle nos papiers et me demande ce que signifie « achondroplasie ». Je sors de la voiture et je lui dis, en me désignant, « C'est ça !» Plutôt péteux, il nous a salués et nous a dit de circuler. C'est une réaction assez emblématique de ce que j'ai pu vivre. Maintenant, ce n'est plus indiqué sur les papiers, car ce serait considéré comme discriminatoire. D'ailleurs, plus aucun signe particulier n'est signalé. Je n'ai donc plus de signe particulier, si ce n'est deux beaux yeux. Gris ou bleu, selon les jours, ça dépend de la météo. Et de mon humeur. Autre parenthèse, dans la tête de beaucoup de gens, je suis associée à Michel Fugain et son Big Bazar, mais jamais je n'ai participé à un spectacle de cette troupe. Je n'ai fait que son école.
J'étais persuadée que tu avais fait partie de ces spectacles en tant que chanteuse.
Pas une seule fois. Même si tout le monde fait l'amalgame avec des émissions de télé auxquelles j'ai participé à ses côtés, le samedi après-midi sur TF1, mais en tant qu'élève. Et toi, comment ton choix de carrière s'est-il dessiné?
Sans aucune stratégie. Au début, on peut même dire que j'y suis allé par chimiotactisme, comme une bactérie qui navigue entre ce qui la ronge et ce qui la nourrit, en essayant de survivre. Si ça m'attirait, je m'approchais. Et puis, je me collais aux gens avec qui je me sentais bien. De là, j'affinais ma façon d'être pour trouver le point d'équilibre entre ma nature et ce qui me permettait d'être accepté et d'apprendre. Très jeune, dès les petites classes, je me suis rendu compte que faire marrer les gens était un excellent moyen de ne pas être seul. Il y a bien sûr ceux qui ne voient en toi qu'un clown, mais il y a aussi les autres, ceux qui lisent entre les rires. J'avais plein de copains. Et les profs nous aimaient bien parce que, même si on n'était pas toujours très malins, nous n'étions pas méchants. De ces années fondatrices, j'ai appris qu'une approche légère peut permettre de tout aborder plus facilement, même ce qui est dramatique. Dès que les gens ont peur ou mal, on arrive à les aider par l'humour avant de s'attaquer aux vrais problèmes. Et ils vous en sont reconnaissants.
Donc, tu te faisais remarquer en faisant rire? Ça marche toujours.
Oui, ça marche. Mais je ne le faisais pas pour ça. Je ne cherchais pas à être dans la lumière, pas plus à l'époque que par la suite dans ma carrière au cinéma. Être devant n'est pas ma place, c'est celle des meilleurs. J'adore me tenir dans l'ombre de ceux qui ont le courage de s'exposer pour les aider, les porter, les servir. Quand j'étais jeune, avec mes parents, nos seules sorties culturelles en famille étaient le cinéma. Et nous n'y allions pas beaucoup. Nous habitions loin des salles et nous avions tout ce qu'il nous fallait chez nous. Nous étions une belle bande de potes et nous profitions de la rue, où peu de voitures passaient, du petit bois rempli d'arbres fruitiers et même des champs agricoles qui s'étendaient derrière les maisons. Mes parents m'emmenaient seulement voir le Disney de l'année. Pourtant, le vrai choc date pour moi du 23 août 1980, lorsque j'ai vu l'Empire contre-attaque. J'avais 14 ans. J'ai été très impressionné. Ce film développait des thèmes qui me touchaient, comme la loyauté, l'amitié, la défense de la liberté. Je l'ai vu de nombreuses fois et à chaque nouvelle séance, je regardais de plus en plus le public dans la salle. J'ai découvert que je n'étais pas le seul à être transporté par cette histoire. j'ai tout de suite eu envie de fabriquer ces émotions. Alors j'ai voulu travailler dans le cinéma pour emmener les gens vers toute une variété de sentiments. Je n'avais pas la prétention de pouvoir le faire seul, mais j'avais la volonté farouche d'aider ceux qui en étaient capables. Je me suis donc jeté corps et âme dans ce qui pouvait passionner un gamin de 14 ans, les effets spéciaux. Mon père était méfiant à l'idée que je suive cette voie car il envisageait pour moi une carrière plus classique et plus rassurante d'ingénieur. Seule ma grand-mère m'a soutenu, et c'est d'ailleurs elle qui a payé mon premier billet d'avion pour Los Angeles. Je n'y suis pas resté longtemps, mais quelques jours ont amplement suffi à changer ma vie. J'ai été complètement transformé par ce que j'y ai découvert, et au retour, je ne voulais plus rien faire à l'école. Cela ne m'intéressait plus. J'avais trouvé ma voie. J'ai fait le minimum syndical pour ne pas me faire virer du collège et du lycée, et je me suis consacré de toutes mes forces à essayer de m'approcher de ce milieu où de grands enfants fabriquaient des émotions de toutes sortes avec les meilleures technologies disponibles.
Donc, tout a commencé par le cinéma. Comment en es-tu venu à écrire ?
Dans le cinéma, j'ai pratiqué un peu tous les métiers, à tous les niveaux. À force de bosser sur des films dont le scénario n'était pas toujours brillant, je me suis dit que je pouvais peut-être tenter ma chance. Alors je me suis mis à écrire mes propres histoires, sans me demander ce que cela pourrait donner, sans l'idée d'en faire mon métier. Et puis, peu à peu, des gens ont lu, et tout a vraiment commencé.